Chapitre 3. J'ai à peine le temps d'en placer une que j'aperçois une multitude de policiers qui débarquent en trombe dans la maison. Amir se crispe. Ils nous encerclent avec leurs armes pointées sur nous. Amir me place derrière lui pour que je sois hors d'atteinte. Les flics maintiennent fermement leurs armes pour être prêts à tirer en cas de mouvement brusque. Je sens les muscles d'Amir se tendre. Il veut se diriger vers l'un d'eux, mais je lui attrape la main pour l'en empêcher. Je sais qu'il risque de faire une crise qui ne sera pas bénéfique. Ils ont un parfait angle de tir. Ils peuvent nous buter 100 fois avant que l'on puisse faire quoi que ce soit. Amir serait suicidaire de l'ouvrir à ce moment précis. Aussi, n'oublions pas qu'il est blessé à l'épaule. Il ne le montre pas, mais il est moins performant et moins fort que d'ordinaire. Mais il ne le laissera jamais paraître et encore moins devant moi. Amir se tourne vers moi. J'ai l'impression qu'il ressent toute mon inquiétude, car son regard passe de la haine à une certaine douceur. « Ne t'inquiète pas, je me tiendrai toujours devant toi comme un rempart », me glisse-t-il d'une voix rassurante. Il a compris que je voulais absolument éviter l'affrontement parce que je crains pour lui. En temps normal, il aurait déjà sauté sur l'un des policiers, mais il semble plus apaisé. « Qu'est-ce que vous faites ici? Et qu'est-ce que vous nous voulez ?» je demande. L'un des hommes me scanne de haut en bas, mais il ne me répond pas. Plusieurs agents se dirigent vers Amir, qui lâche ma main. Il le plaque brutalement au sol. Amir se retrouve couché, les bras maintenus derrière le dos par l'un des policiers, pendant qu'un autre appuie un genou sur son dos pour l'empêcher de se relever. Je fixe Amir avec appréhension, il m'adresse un sourire rassurant. Il voudrait pouvoir leur faire payer cette humiliation, mais il se contrôle pour éviter que ça dérape. Certains policiers se mettent à retourner entièrement le salon. Ils jettent les coussins, renversent les canapés, ouvrent et déplacent les armoires. Ils semblent chercher quelque chose. Amir a toujours la tête collée à terre. Il pousse un gémissement de douleur quand un des agents appuie sur sa blessure à l'épaule. Cette vision me brise le cœur. Je veux me rapprocher de lui pour vérifier que sa plaie n'est pas rouverte quand un des policiers m'attrape vivement par le bras. « Quelqu'un t'a demandé de bouger à toi ?» me lance-t-il avec froideur. Il pointe son arme sur ma tempe et me rapproche de lui. J'ai le réflexe de lui décocher une droite, mais je m'abstiens. Je ne flanche pas. Je le dévisage avec haine et mépris. Il ne me fait pas peur. Amir est fou de colère. Il dévisage le policier, puis il essaie à plusieurs reprises de se relever pour m'aider, mais c'est impossible. « Baisse ton arme !» hurle Amir. « Baisse-la !» Il essaie encore de se relever, mais en vain, car ils se mettent à plusieurs pour l'en empêcher. Les policiers qui ont fouillé la maison reviennent devant celui qui semble être leur supérieur. Puis, l'un d'eux lui chuchote à l'oreille avant de se reculer. Le chef fait un signe de la main à ses hommes, qui se dirigent vers la sortie, sauf ceux qui maintiennent Amir au sol et celui qui pointe son arme sur ma tempe. « Nous avons été avertis qu'il y avait une bombe ici », nous informe le supérieur. « Nous sommes venus vérifier que vous n'étiez pas des poseurs de bombes, mais nous n'avons rien trouvé. Il doit s'agir d'une fausse alerte. » Les agents qui plaquaient Amir au sol relâchent leur prise. Ils veulent l'aider à se relever, mais Amir les repousse en les fusillant du regard. Il s'avance vers moi et écarte le policier qui tenait son arme pointée sur ma tempe. Il le fixe avec mépris, prêt à lui bondir dessus à tout moment, mais j'attrape de nouveau son poignet. Je sais qu'il veut me venger. Amir est prêt à se battre contre n'importe qui pour protéger mon honneur et assurer ma sécurité. Il se fiche des conséquences, mais pas moi. J'essaie de le calmer. Ne tente rien qui pourrait te porter préjudice. Ils vont s'en aller. Il continue de dévisager le flic, comme pour mémoriser les traits de son visage afin de ne jamais l'oublier. « Ça vous arrive souvent de débarquer chez les gens de cette façon uniquement à cause de rumeurs débiles ?» je demande à celui qui semble être le plus gradé. « Nous sommes désolés, mademoiselle. En cas de suspicion de ce genre, nous agissons rapidement. Nous nous excusons également pour l'état dans lequel nous laissons votre maison et pour la façon dont nous avons été contraints de vous arrêter. Vous pouvez contacter le poste de police et vous serez dédommagé. » « Je n'ai pas besoin de votre argent !» lui crache sèchement Amir. Son intonation laisse transparaître toute la haine qu'il contient. L'homme hoche la tête, puis il se dirige vers la sortie, suivi de ses subalternes. Je regarde par la fenêtre toutes les voitures de police qui s'éloignent. Je peux enfin lâcher le poignet d'Amir. Il semble songeur. Je trouve ça étrange qu'ils aient reçu une dénonciation anonyme à cette adresse. Personne n'est censé savoir qu'on se trouve ici, me confie Amir. Personne sauf Ahmed, j'ajoute amèrement. Je suis déçue qu'ils mettent au point des combines aussi médiocres alors que tout à l'heure, il m'a permis de sauver Amir. Je n'arrive pas à comprendre les agissements de cet homme. Il est infernal. Qu'est-ce qu'Ahmed prépare? Pourquoi a-t-il fait venir la police jusqu'ici? Je m'interroge à voix haute. Ça ne lui ressemble pas de se servir des forces de l'ordre. J'ai un mauvais pressentiment. J'en ai aucune idée, mais il faut qu'on se barre de là. Je voulais qu'on dorme ici ce soir, mais vu que la porte est défoncée, c'est mieux de retourner à la villa, m'indique Amir. Je te rappelle qu'on n'a pas de voiture et que cette maison se situe dans un lieu paumé. Il fait un signe négatif de la tête. À 20 minutes de marche, on trouvera des maisons. On demandera un téléphone pour appeler Eymen, afin qu'il vienne nous chercher, m'informe-t-il en regardant l'heure sur sa montre. Tu es sûr que tu peux marcher? Tu n'as même pas eu le temps de te reposer et ta blessure est encore toute fraîche. Je lui dis avec inquiétude. Ne t'en fais pas pour moi. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas faire autrement. On va laisser la maison ouverte comme ça? Elle sera forcément cambriolée. Il n'y a rien de valeur de toute façon. Dès que j'aurai accès à un téléphone, je dirai à mes hommes d'entreprendre des travaux pour réparer la porte. Ensuite, la maison sera nettoyée de fond en comble, m'explique-t-il. Très bien. Je vais me changer, me prévient-il en se dirigeant vers les escaliers. Je hoche vaguement la tête. J'avais presque oublié qu'il était torse nu. Il monte à l'étage et je l'attends patiemment. Il redescend habillé d'une chemise bleu marine, d'une paire d'italiennes assorties et d'un pantalon de smoking noir. Il tient dans ses mains une veste qu'il me tend. Enfile ça, tu risques d'attraper froid dehors, m'avertit Amir. Je ris tout bas. Il s'est fait tirer dessus, son épaule est en piteux état, il vient de se faire plaquer au sol, pourtant, c'est à mon bien-être qu'il pense. Qu'est-ce qui t'amuse? S'étonne-t-il. Ne t'en fais pas pour moi. Mets cette veste, c'est toi qui risques de tomber malade. T'es pas assez couverte, réplique-t-il en m'observant de haut en bas. Ne t'inquiète pas. Il ne me laisse pas le choix et m'aide à enfiler la veste malgré sa blessure à l'épaule. Puis, nous sortons de la maison et commençons à marcher. Il fait nuit noire dehors. Il n'y a même pas de lampadaire pour nous éclairer. Amir avance devant moi, je suis un peu à la traîne. Il faut dire que ma jambe me fait affreusement souffrir, même si je ne laisse rien paraître. Il s'arrête et se tourne vers moi. Il arque les sourcils en fixant ma jambe droite. « Pourquoi tu boites? T'as mal à la jambe ?» s'inquiète Amir. L'accident de voiture que j'ai eu a provoqué l'explosion de mon pare-brise. Un morceau de verre est venu se nicher dans ma cuisse. J'ai dû le retirer pour venir te chercher. Il s'agit d'une simple douleur passagère, ce n'est rien du tout. Continuons d'avancer, il se fait tard. Je veux le contourner, mais il attrape mon poignet. Je me retrouve collée à son torse. Nos regards s'entremêlent. Quelle jambe te fait souffrir? S'empresse-t-il de me questionner. Je t'ai dit que ce n'était rien.
Ne me force pas à me répéter,
s'agace-t-il. Jambe droite, je réponds en soupirant.
C'est la jambe que t'as glissée sous la planche en bois pour me libérer, n'est-ce pas?
Je ne réponds pas. Il serre les poings et fronce les sourcils.
« T'es folle ou quoi? Arrête de te mettre en danger bêtement pour moi !»
m'ordonne-t-il. C'est bien pour éviter ce genre de remarques que je ne voulais pas qu'il le sache. J'avais pas d'autre choix. J'avais pas suffisamment de force pour soulever cette planche. C'était le seul moyen de te sauver.
« Il fallait me laisser là-bas !»
déclare Amir d'un ton nonchalant. Je lève les yeux au ciel. « Tu te fiches de moi? Tu penses que je ne peux pas supporter une petite douleur à la jambe pour toi ?»«
Je te parle sérieusement, Kara. » « Je ne veux pas que tu te mettes en danger pour moi, ce n'est pas ton rôle. »
m'explique Amir en soupirant. « Tu t'es tiré une balle dans l'épaule pour que je ne voie pas des vidéos de Maria et d'Ahmed. Mais tu ne veux pas que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger? Si tu me préserves, je me dois de le faire pour toi en retour. » Je réplique avec conviction. Il semble surpris par ma répartie puisqu'il hausse les sourcils.
« Tu ne me dois rien, ne dis plus jamais ça. Tout ce que je fais pour toi n'exige aucun retour de ta part. » « Je refuse que tu sacrifies ta santé en mon nom, »
m'informe Amir. « Tu es là pour moi, c'est normal que je le sois aussi pour toi. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je ne privilégierai jamais ma vie contre la tienne. » Il gaspille sa salive.
je continuerai de faire ce que je souhaite, avec ou sans son accord. Je resterai un électron libre. Il faut qu'il finisse par se faire une raison et qu'il arrête de croire qu'il peut me contrôler.
Tant que je sais que tu vas bien, je me relèverai toujours. Je veux juste que tu sois capable de m'abandonner si tu sens que je vais crever ou que ton existence est en jeu. Me prévient Amir.
C'est au-dessus de mes forces. Si tu dois mourir, on sera deux à quitter ce monde. Je ne crains pas la mort. Tu ne te rends pas compte de ce que tu représentes pour moi. Je ne veux pas vivre dans un monde où tu n'existes pas. Une vie sans Amir Ben Khalif ne vaut pas la peine d'être vécue. Je rougis après avoir prononcé ces mots, tandis qu'il me lance un regard traduisant son état de choc. Il finit par sourire, comme touché. J'aime tellement le voir sourire et apercevoir les trous qui se creusent dans ses joues. C'est devenu une habitude désormais d'admirer ses fossettes et sa dentition éclatante.
C'est la première fois que quelqu'un me dit quelque chose d'aussi beau,
me confesse-t-il. J'allais sourire quand il lâche mon poignet et se tourne pour être dos à moi. Il s'accroupit.
Monte sur mon dos. Je vais marcher pour nous deux,
m'annonce Amir. Non. Il se tourne vers moi, sceptique.
Comment ça, non?
Je ne vais pas monter sur ton dos alors que tu as une épaule blessée. Tu te tiens fièrement devant moi, mais je suis sûre que tu souffres en silence. Je peux très bien marcher, ça ne va pas me tuer. Je réplique.
Pourquoi tu ne veux pas juste être contente que je te propose de te porter?
S'agace Amir. Cesse de négliger ta santé au profit de la mienne. Je me rapproche de lui pour plaquer ma tête contre son torse et agripper sa chemise. Arrête de me prendre pour une petite chose fragile. Je ne veux pas que tu me protèges, mais que tu te protèges toi. Je lui dis d'une voix douce, mais assurée. Il ne répond pas. Je sens son souffle chaud contre mon crâne. Il m'écarte de son torse, puis se baisse. Il colle son front au mien en me fixant.
Tu ne comprends vraiment pas, Kiara.
Comprendre quoi?
Quand je te protège, je me protège aussi. Si je ne suis pas en mesure d'assurer ta sécurité et qu'il t'arrive quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Je ne sais pas mettre de mots sur ce que je pense, ni sur ce que tu réveilles en moi, mais crois-moi, c'est plus fort que la crainte de la mort. J'ai bien plus peur que tu te prennes une balle que d'en recevoir une moi-même, car tu as une valeur inexplicable à mes yeux. En te protégeant, je protège également le reste du monde de ma folie destructrice. J'ai une face dissimulée qu'il ne vaut mieux pas que tu connaisses. Elle risquerait de te faire fuir. J'essaie de contrôler cette partie de moi du mieux que je peux pour éviter de causer des tragédies. Je n'ai pas envie de redevenir cet Amir-là, mais je sais que si on t'arrache à moi, il risque de revenir et je ne serai pas en mesure de le contenir. Celui que je suis quand tu n'es pas auprès de moi est un monstre, me révèle Amir décontenancé.
S'il continue comme ça, mon cœur risque d'exploser. J'ai envie de le prendre dans mes bras, de lui expliquer ce que je ressens pour lui. Mais je préfère l'entendre s'ouvrir à moi. C'est tellement plaisant de le voir intimidé par ma présence. Il poursuit, un peu gêné.
Je ne sais pas parler, mais mes actes montrent ce que je ressens. Je suis conscient que je ne suis pas un homme facile à côtoyer et que de nombreuses personnes me détestent parce que je suis arrogant et nerveux. On m'a souvent tourné le dos à cause de mes actions et de mes crises de folie. J'ai frappé tant de gens que j'ai cessé de compter depuis bien longtemps. Je sais que je ne suis pas le meilleur mari et que tu voulais sûrement une union avec quelqu'un de plus stable que moi. Tout le monde peut me prendre pour un psychopathe imbu de sa personne parce que c'est la vérité, mais toi, je ne veux pas que tu me vois comme ça. J'aimerais que tu m'apprennes à devenir meilleur, comme toi. Je veux être digne de ton amour, te mériter réellement. Je pourrais prendre tous les coups du monde et toutes les balles pour te préserver. Tant que tu vas bien, je peux quitter ce monde en paix. Je te demande, Kiara, de m'aider à étouffer cette face cachée de ma personnalité qui ne doit absolument pas sortir. Tu es un diamant, le plus beau que j'ai pu voir dans ma vie.
Il s'empourpre. Je suis déboussolée. Son regard s'attarde sur mes yeux avant de se poser sur ma poitrine. Il est passé de la gêne à l'inquiétude en l'espace de quelques secondes. Je fixe le même point que lui et remarque une lueur rouge. Un sniper est en train de me viser. Je n'ai pas le temps de réagir qu'Amir m'attrape le bras.
« Reste derrière moi, ne bouge surtout pas !»
m'ordonne-t-il. Il me pousse derrière lui. C'est lui qui devient la cible. mais le sniper ne tire pas. Amir est prêt à se prendre une balle pour moi. Quand il disait qu'il était un rempart, il le pensait réellement. Je tente de le repousser pour me mettre face à lui, mais il ne flanche pas. Ma vie avant la sienne, c'est la devise qui l'anime. Nous attendons sans bouger, puis Amir saisit mon poignet et se met à courir avec moi derrière lui. Il tient fermement ma main pour ne surtout pas se séparer de moi. Mes jambes me font mal, mais je ne laisse rien paraître. On court pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à arriver en plein milieu de la route. Une voiture fonce sur nous. Elle manque de nous écraser, mais heureusement, le chauffeur s'arrête juste avant de nous percuter. Je soupire de soulagement pendant qu'Amir observe le conducteur qui sort du véhicule et se rapproche de nous. Amir serre ma main dans la sienne. L'homme doit avoir une soixantaine d'années. Il a le crâne rasé, le ventre bodonnant, le teint pâle, les yeux bleu clair, de petites lèvres roses. Il est habillé d'un gros pantalon en jean, d'une chemise à carreaux rouges et bleus et d'une paire de bottines noires. « Je suis vraiment désolé, je ne vous avais pas vu. » s'excuse-t-il. « C'est nous qui avons foncé vers vous, désolé. » Je lui réponds. « Vous m'avez l'air perdu, vous n'êtes pas du coin, n'est-ce pas ?»« En effet, » je réponds en souriant. « Votre voiture est tombée en panne ?»« Oui, c'est ça, on a dû la laisser et ça fait quelques heures qu'on marche, car nos téléphones n'ont plus de batterie. » « Je vois. Je m'appelle Alexis, et vous ?»«
Rosa, et voici mon mari Zayn. »
Il vaut mieux ne pas divulguer nos véritables identités. On n'est jamais trop prudent. Il m'a l'air inoffensif. S'il y a bien une chose que cette histoire m'a apprise, c'est qu'un physique peut être trompeur. Vous avez besoin d'un téléphone pour appeler quelqu'un, peut-être ? Nous interroge-t-il. Oui, nous avons un fils de 4 ans et il est avec sa nounou. Il faut juste qu'on téléphone à la nourrice pour lui dire qu'on rentre dès que possible. Je poursuis mon mensonge. Il sort son téléphone de sa poche arrière et le tend à Amir. Ce dernier le remercie vaguement, puis il se recule pour téléphoner à Ayman. Je souris à l'homme âgé dont le visage rayonne. J'observe sa voiture. Plutôt une petite camionnette noire qui doit lui servir pour le travail. Je plisse les yeux en découvrant ce qui est posé sur la banquette arrière. Un bidon d'huile transparent, la même que celle ayant provoqué mon accident de voiture tout à l'heure. Il voit que je fixe quelque chose, alors il tourne la tête pour voir ce qui m'intéresse tant. Dès qu'il comprend, il essaie de sortir un couteau de sa poche. Mais je ne lui laisse pas le temps d'agir et lui assène un coup de pied dans le ventre et un coup de poing au niveau du torse. Son couteau tombe au sol, je le ramasse rapidement. Je me rapproche de lui et lui donne un coup dans les genoux, qui l'envoie par terre. Il essaie de se relever, mais je pointe le couteau sur sa tête. « Essaie de bouger et je te tranche la gorge. » Je menace. Il déglutit et hoche la tête. Amir revient vers moi et son regard passe de l'étonnement à l'incompréhension, alors je lui explique. « L'huile qui a provoqué mon accident, c'est lui qui l'a versée sur la route. » Amir fronce les sourcils. Il se rapproche du vieillard et lui attrape la tête. Il lui donne un énorme coup de pied dans le nez qui lui arrache un cri de douleur. Ensuite, Amir relève l'homme et l'attrape par le cou.
« C'est à cause de toi qu'elle a eu un accident ?»
l'interroge durement Amir. Question rhétorique. Il le soulève, le plaque contre sa camionnette et capte son regard.
« Qui t'a envoyé ?»
demande Amir en l'assassinant du regard. L'homme ne répond pas.
« Écoute-moi bien. Je m'en tape que tu sois un vieux, tu entends ? T'as voulu tuer ma femme, alors je n'aurai aucune pitié pour toi. » « Ne me force surtout pas à utiliser ce couteau pour planter ta gorge. Ce serait dommage que tu ne puisses plus respirer. »
L'intimide Amir. Le vieillard se fige. Il avale difficilement sa salive. Ses lèvres se mettent à trembler pendant que ses yeux deviennent larmoyants. Il pourrait presque me faire de la peine s'il n'avait pas voulu me tuer.
« Un homme est venu me voir à mon domicile et m'a demandé de balancer de l'huile sur la route à une certaine heure. »
réplique l'homme paniqué.
Je jure que je ne sais rien de plus. Il m'a proposé de l'argent en échange de ce service. Il m'a dit qu'il voulait voir si l'amour que cette femme vous porte est aussi fort qu'il y paraît.
Répond-il en frissonnant de crainte. Amir se retient de lui porter un coup, mais sa colère est perceptible sur son visage.
Quel homme ?
L'interroge Amir avec hostilité.
Un homme au teint mat, un trentenaire avec des cheveux bruns, les yeux marron foncé, très grand et musclé. Il était habillé classe et entouré de nombreux autres hommes, tous armés et vêtus de costumes hors de prix, nous précise le vieil homme.
Amir frappe la camionnette à quelques centimètres de la tête de l'homme qui couine de peur. Nous avons reconnu cette description aisément. Nous ne connaissons qu'une personne avec ce profil.
« Ce fils de putain de Gonzalo veut vraiment jouer avec moi !»
hurle Amir. « Pourquoi vous êtes venu nous proposer un téléphone si votre unique mission était de mettre de l'huile sur la route ?» Je questionne l'homme.
Son action est stupide. Quand on commet un crime, on déguerpit. On ne reste pas sur les lieux du crime et on ne vient pas discuter avec les victimes. Cet inconnu m'a téléphoné il y a une demi-heure en me disant que je pouvais gagner encore plus d'argent. Il m'a expliqué que je devais faire le tour des routes à la recherche de deux personnes. Un grand homme musclé, probablement recouvert de sang, avec un teint mat et des cheveux mi-longs bruns, et une femme aux cheveux courts noirs et aux yeux marrons.
« Pourquoi il voulait que tu nous recherches ?»
l'interroge Amir.
« Il m'a demandé de me montrer bienveillant avec vous et de faire en sorte de vous occuper pendant une heure. »
répond-il. « Mais pourquoi ? La fouille de la police était-elle aussi un coup monté ? Gonzalo voudrait nous distraire, mais de quoi ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire pendant que nous sommes ici ? »
Amir fouille dans les poches du vieillard et en sort la clé de la camionnette. Il lâche le vieil homme qui se retrouve au sol.
Amir contourne le véhicule et s'installe côté conducteur pendant que je monte côté passager. Il démarre. Je suis perturbée. J'ai la boule au ventre et un mauvais pressentiment. Je sens que quelque chose se trame derrière notre dos. J'ai juste envie de rentrer à la maison.
Comment Gonzalo a su que tu allais emprunter cette route? Et comment il a pu savoir que j'étais blessée?
Demande Amir sur un ton sec. J'aurais préféré ne pas devoir répondre à ça. Je pose mes yeux sur lui. Les siens sont rivés sur la route. Je sens qu'il est tendu et qu'il a capté mon regard, mais qu'il se refuse à me le rendre.
D'ailleurs, comment tu as su où me trouver, toi?
Me questionne-t-il. Je ne dis pas un mot.
Réponds-moi,
exige-t-il rudement. Je reste stoïque. Les paroles ne parviennent pas à franchir mes lèvres, même si j'essaie. Je sens qu'il va s'énerver quand il va savoir et je ne suis pas prête à subir une nouvelle querelle. Je suis obligée de lui avouer la vérité. Monsieur X m'a téléphoné pour me dire que ces hommes t'espionnaient et qu'ils t'avaient vu te rendre chez Ahmed. Ils t'ont vu ressortir de chez lui recouvert de sang et escorté par les hommes d'Ahmed. Donc, ils vous ont suivi et Monsieur X m'a envoyé l'adresse où tu étais détenu pour que je vienne te récupérer. Je lui avoue. Il garde le silence, comme pour assimiler mes paroles. Il cogne le volant et se tourne vers moi, l'œil mauvais.
« Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?»
insiste Amir en se retenant d'hurler. « Je ne voulais pas que tu te sentes redevable envers ce type, » je réponds.
« Tu aurais quand même dû me le dire. Il a provoqué un accident juste pour voir si tu étais capable de me sauver. Et il a envoyé la police chez moi pour une fausse alerte à la bombe pour faire diversion. S'il lui fallait une diversion, c'est qu'il est en train de mettre au point un plan contre nous. »
hurle Amir. Je ne réplique pas, mais je sais qu'il a raison. Tout ceci sent mauvais. Le téléphone du vieillard se met à vibrer. Amir me le présente pour que je voie ce que c'est. Je prends le téléphone et lis à haute voix.
« Je suppose que tu sais qui c'est, Amir. Tu m'appelles comment déjà ?
Monsieur X, non ? Tu es vraiment un homme résistant et fascinant. Je suis impressionnée par ta capacité à récupérer alors que tu t'es pris une balle. Je dois reconnaître que ta femme aussi est exceptionnelle. Vous faites un couple de criminels très puissants, c'est indéniable. Elle est prête à tout pour toi. Ça frôle la folie. Je suppose qu'elle t'a informé que c'est moi qui ai sauvé tes fesses. Ne te méprends pas. Je t'ai sauvé uniquement pour que tu me rapportes cette puce. Il est temps que la partie commence réellement. Je suis fatiguée de jouer au chat et à la souris. Je veux obtenir cette puce et je ne reculerai devant rien. J'ai pris beaucoup de plaisir à lutter contre toi et Chiara, mais cette guerre doit s'achever. Je vais venir récupérer ce qui me revient. J'ai sauvé ton existence en échange d'une autre. Une vie contre une vie. Cela est équitable. »